Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Ismo au micro de RTWA. Et pour l'interview du jour, je suis avec Frederica Van Ingel. Bonjour Frederica.
Bonjour.
Alors toi, tu interviens dans le cadre de Écologie et Quotidien. Tu animes un atelier-conférence, j'ai envie de dire, le dimanche 1er février à 16h30. Et l'intitulé, c'est « S'inspirer des peuples racines pour restaurer nos liens à la Terre ». Alors, est-ce que, dans un premier temps, Frederica, tu veux bien te présenter ?
Oui, bien sûr. Alors moi, mon premier métier, c'est journaliste. Mon premier amour, c'est la nature, depuis que je suis enfant, j'ai grandi dans la nature. Et donc, j'ai été journaliste longtemps dans l'écologie, la santé, la psychologie, etc. Et un jour, au fil du temps, j'en ai rencontré, et un jour particulièrement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient en lien avec des peuples racines. Et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi je faisais ce métier de journaliste. Ça m'a raconté que ça y est, ça faisait sens que je sois là pour mettre ensemble ce que je comprenais de ces peuples-là, pour inspirer nos façons de vivre ensemble. Parce que quand j'ai rencontré ça, ça a été évident qu'il y avait dans ces façons d'être au monde, dans leur philosophie, dans leur sagesse, quelque chose qui, moi, me manquait dans mon quotidien. Et donc, quand j'ai commencé à écrire ça ensemble, je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup aux gens. Et donc, j'ai écrit plusieurs livres sur ces thématiques-là. Un premier sur les sagesses des peuples racines, en lien avec des personnes qui sont en lien eux-mêmes avec ces peuples, parce que pour moi, c'est intéressant qu'il y ait des niveaux de traduction comme ça. Et moi, j'amène encore un niveau de traduction. Un livre sur leur vision de la santé, la santé de l'être humain qui n'est jamais séparée de celle du monde dans leur compréhension et dans leur façon de soigner aussi. J'en ai écrit un sur leur lien à la nature, c'est quoi être en lien avec la nature pour eux et quelle différence par rapport à nous et quel chemin on a besoin de faire nous pour pouvoir vraiment revivre ce lien de cœur, je dirais, hein, ce lien de sensoriel, de relation vraiment profonde avec la nature. Et puis un tout dernier où je suis allée chercher quels étaient les principes qui régissent ces sociétés et qui nous manquent et que si on remettait dans nos façons d'être individuellement, collectivement, dans nos sociétés, bah, ça pourrait nous permettre de recréer des cultures symbiotiques, c'est-à-dire des cultures humaines qui sachent vivre en lien avec la nature, comme on savait le faire il y a très longtemps, mais maintenant il y a des nouvelles façons d'inventer. Donc moi, mon chemin, je dirais, c'est d'explorer ça et de le partager dans des bouquins, dans des conférences, dans des stages pour vivre des expériences, etc. C'est là que j'ai envie d'œuvrer aujourd'hui.
D'accord, donc on peut dire auteur, journaliste, conférencière.
Ouais, voilà, pour y mettre des mots, c'est ça, journaliste, auteur, conférencière. Je me qualifie de passeuse parce que ce sont des sagesses et que les sagesses nous traversent. Et donc je me qualifie de passeuse de ces sagesses, de ces peuples, à destination de nous, depuis les cultures qu'on est aujourd'hui.
Est-ce que, pour expliquer un peu aux auditeurs de quoi il s'agit, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les peuples racines ?
Oui, alors, bien sûr, les peuples racines, on les appelle aussi indigènes, peuples premiers, aborigènes, autochtones, etc. Eux-mêmes ont choisi l'appellation autochtone quand ils sont allés à l'ONU pour défendre leurs droits. Moi, j'aime bien ce terme de peuple racine qui vient des anthropologues russes parce qu'ils racontent quelque chose de leur lien à la Terre, qui est aussi notre lien originel. Alors, je sais que des fois, les gens disent « ouais, peuple racine », mais non, c'est pas la racine de l'humanité. À la fois, si, et c'est surtout que cette racine-là, elle est encore vivante aujourd'hui dans leur culture, etc. Donc, c'est 476 millions de personnes, pour être concrète.
Wow.
5000 peuples répartis un peu partout sur la planète. 4000 langues différentes sur les 7000 qui existent dans le monde, quand même. Donc, c'est plus de la moitié des langues humaines. Et ça, je trouve, j'aime bien parler de ça parce que ces langues sont très particulières et dans ces langues, pour moi, il y a ce que j'appelle la biodiversité de la pensée. C'est-à-dire quand on va regarder un peu ce qui se cache derrière ces langues-là, on voit qu'il y a d'autres façons d'être des humains, d'autres façons. Et c'est souvent des langues justement qui racontent à quel point ils sont en lien avec la nature et comment ils construisent et comment ils conçoivent leur pensée en lien avec la nature. Voilà. Donc voilà, c'est des peuples qui ont on va dire, des cultures qui sont enracinées dans la nature. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'utilise le mot nature, nature, nature depuis tout à l'heure. Il y a tout un débat qui dit, ces peuples-là, ils n'ont pas de mots pour dire nature, puisqu'ils sont la nature. Et c'est vrai, dans ces langues-là, il n'y a pas de mots pour dire nature. Par contre, il y a des mots pour dire la terre. Il y a des mots pour dire une force plus grande que nous qui nous traverse. Et ce mot nature, si on revient aux origines, en fait, il veut dire ça aussi. Donc nous, on a juste oublié ce qu'était l'essence de la nature. Et en fait, aller rencontrer ces gens qui font ça de façon... Enfin, ces gens ou ces pensées qui font ça de façon hyper simple, c'est retrouver l'essence de ce que c'est la nature autour de nous et la nature à l'intérieur de nous.
Ouais. Et comment s'est passé pour toi ta rencontre avec ces peuples racines?
Tu vois, je te disais au départ que j'ai grandi dans la nature. Et je pense que pour moi, la rencontre, elle date de là, en fait. C'est-à-dire, j'ai grandi dans la nature et je voyais bien que j'avais un lien particulier, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je sentais des choses, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Alors, des choses, c'est rien, hein, l'énergie du printemps, l'énergie de l'automne, enfin, des trucs que tout le monde ressent, hein, rien d'extraordinaire. Mais j'arrivais pas à comprendre que ça avait une autre saveur que juste appeler ça l'automne, le printemps, etc. En rencontrant ces cultures-là, je me suis rendu compte que il peut y avoir une culture humaine derrière tout ça qui vient nous faire prendre conscience que on fait partie de ce monde plus grand. Et qu'on a une place de la même façon qu'un arbre a une place dans un écosystème, une rivière a une place dans un écosystème. Tous les humains ont une place particulière dans ces écosystèmes. Et donc, alors, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup dans la vision des peuples racines que j'ai trouvé, notamment, alors les Lakota le disent comme ça, c'est que on est quelque part unique. Et pas complètement fini. Certes, les animaux sont nos enseignants, les arbres sont nos enseignants, et nous, les humains, on a un chemin à faire pour aller savoir qui on est. C'est-à-dire, tous les autres éléments de la nature savent qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ce monde manifesté. Et nous, on est les seuls à un endroit, là, à un moment, d'avoir oublié ça. C'est rigolo parce que toutes les grandes traditions le racontent, hein, qu'on a eu un moment d'oubli. C'est-à-dire, quand on naît, on ne sait plus qui on est. Et donc, on a ce chemin à faire d'être humain, de retrouver qui on est profondément pour pouvoir trouver notre place dans l'écosystème. Et j'aime bien cette vision-là parce que on peut la qualifier de spirituelle. Mais pour moi, je trouve que le mot écosystémique suffit déjà. Ça permet d'enlever le débat spiritualité, religion, etc. On est des éléments de la nature et retrouvons notre place déjà individuellement dedans. Et ça peut déjà faire la différence pour moi.
Donc, si je comprends bien, en approchant ces peuples racines, tu trouves des points communs dans tout ce qu'ils disent et dans leur façon de vivre la nature.
Ouais, alors je te remercie de la question, parce que effectivement, comme je te disais tout à l'heure, 5000 peuples différents, c'est 5000 cultures complètement différentes, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent sur un peuple, sur un autre, etc. Et c'est leur vie, et c'est leur travail d'anthropologue et tout ça. Il y a des différences, évidemment. Moi, ce qui m'a fascinée, comme j'expliquais dans mon chemin, c'était de voir que au cœur de tout ça, il y a quelque chose, effectivement, de commun et d'universel. Et ce commun et cet universel, toujours, il va chercher ses racines dans le vivant, dans la nature. Tous, ils nous parlent, les Kogis parlent des lois des origines, les lois du vivant. Les peuples d'Amérique du Nord, Lakota et autres, ont quelque chose qui s'appelle les instructions originelles. Et toutes ces lois, il y en a qui parlent des tables de la loi, etc. Toutes ces lois, elles ont pour origine le vivant. Elles s'inscrivent dans le vivant. Alors, il y a des choses, on se demande d'où ça vient, mais quand on voit comment ça fonctionne et quand on voit la logique qui est derrière, on se dit, oui, nous, en tant qu'êtres humains, par exemple, une des instructions originelles toutes bêtes, qu'on trouve chez les Iroquois, c'est de cultiver la joie, c'est soyez heureux, soyez heureux. On se dit, quel rapport avec la nature? Simplement, si moi, je suis bien en moi-même, si je cultive ma joie, je ne vais pas avoir besoin d'aller déborder sur l'extérieur, je ne vais pas avoir besoin d'aller détruire le truc d'à côté pour exister. C'est-à-dire que quelque part, la nature devient... Le travail intérieur que je vais faire sur ma nature profonde va faire en sorte que je vais être en lien avec la nature d'une façon qui va être plus douce, qui va être plus équilibrée, ou justement, il y a tout ce chemin de de découvrir qui je suis, non pas contre le monde, parce qu'on est quand même des cultures qui sommes en lutte contre la vie et contre le monde vivant. C'est comment arriver à retrouver à l'intérieur de soi un lien qui soit plus harmonieux, plus doux avec le monde dans lequel on évolue. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est du soft toujours, hein, parce que la vie, la terre, la vie dans la nature, elle est dure, elle peut être implacable, etc. Voilà.
Donc tu disais que... Ouais. Si on cultive notre joie à l'intérieur,
ouais,
on est plus avec la nature,
ouais,
et on est moins en train de lui faire du mal, quelque part, de la détruire.
Ouais.
Parce que dans nos sociétés ultra modernes, ultra industrialisées, des fois on peut se demander, mais où est passé le rapport de nous et de la nature.
Ouais, dans les visions du monde de ces peuples-là, il n'y a pas un monde contre lequel on a besoin de rentrer en combat, en bagarre, en lutte. On a besoin de danser avec lui, d'apprendre à vivre avec, d'observer. Donc ça veut dire dans le détail, observer les écosystèmes, tout connaître de l'écosystème, pour toujours savoir en tirer parti de la meilleure façon qui soit, tout en lui permettant de se renouveler. Donc il y a quelque chose, on parle beaucoup de robustesse en ce moment, c'est un mot à la mode, enfin d'Olivier Amand. Pour moi, c'est vraiment cette vision-là, c'est-à-dire qu'on va être, au lieu d'être en train de toujours faire sa place, pousser les choses autour de soi et donc détruire la nature, hein, on va être plutôt dans l'observation, l'enseignement, recevoir l'enseignement pour essayer d'ajuster les choses de façon à soit trouver sa place et vivre de façon équilibrée, mais sans aller brutalement tout casser, quoi. Et alors, quand je parle de joie, etc., je dois préciser, c'est vrai que dans ces peuples-là, ils vivent dans des conditions très souvent qui sont hyper difficiles, hein, déjà parce qu'ils ont été repoussés très souvent dans des milieux très difficiles. Alors, certains n'ont pas été repoussés, ils ont choisi de vivre dans ces milieux difficiles. Mais donc, je trouve ça intéressant, c'est de se dire... On peut être un être humain dans des conditions extrêmes. Je pense au Grand Nord, les Inuits, par exemple, dans certains qui vivent dans le désert. C'est pas parce que le milieu est difficile qu'on doit être en lutte, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est justement ça qu'ils nous apprennent. Et au contraire, c'est des peuples qui vivent joyeux, qui vivent beaucoup dans le partage, qui savent cultiver, enfin, qui ont mis en place tout un tas de façons de fonctionner, donc qui sont en lien avec ces lois du vivant et qui permettent, quelque part, d'être des humains ensemble, joyeux, qui savent vivre avec ces éléments, avec parfois des difficultés, etc., et traverser tout ça. Et il y a tout un tas de... moi, ce qui m'intéresse dans ces sociétés-là et dans ces cultures-là, dans ces sagesses... J'aime bien parler de philosophie parce que ça évite l'identification avec des humains. Parce que tous les humains de ces sociétés-là ne sont pas tous parfaits. Il ne faut pas idéaliser non plus. Hein. Elles ont aussi des zones d'ombre, ces sociétés. Il y a des gens chouettes et il y a des gens moins chouettes comme chez nous. Hein. Voilà. Mais donc j'aime bien parler de ces sagesses et philosophies plutôt parce que vraiment il y a quelque chose qui est encore présent, qui se transmet oralement depuis des générations, qui leur permet d'être en lien avec la nature d'une façon... harmonieuse, de transmettre ça à leurs enfants, d'avoir cette vision que cette génération, hein, en Amérique du Nord, on nous parle de transmettre à cette génération après nous. Donc nous, on se dit, si simplement on reprenait nos décisions politiques aujourd'hui, en pensant aux cette génération après nous, qu'est-ce que ça change ? C'est énorme ce que
ah
ça
oui.
change. Voilà, il y a tous ces petits éléments-là qui ont été mis en place, enfin qui sont en place dans ces sociétés, qui se transmettent encore, qui sont alors pour ceux qui peuvent encore vivre dans les conditions difficiles qu'on leur impose, hein, parce que leurs territoires sont sous pression, parce que aujourd'hui au Groenland par exemple, hein, il y a des réserves minières, partout on trouve cette pression sur le territoire qui existe, soit pour des raisons industrielles, soit pour des raisons militaires, soit simplement parce que ces gens sont un peu quand même trop bizarre parce que c'est voilà, on comprend pas parce qu'ils sont trop différents de nous et donc il y a encore cette espèce de bouc émissaire en fait, on va chercher à éliminer celui qui est différent de nous. Ça existe en Amérique du Sud, il y a du racisme, il y a encore des assassinats, il y a encore alors, des assassinats qui peuvent être parfois politiques mais parfois simplement parce que c'est un Indien quoi.
Oui.
Voilà, ça existe encore aujourd'hui.
Bien sûr.
Et pourtant malgré ça, ces gens-là sont là. Ils résistent à ça, ils traversent ça. Dans les guerres indiennes d'Amérique du Nord, elles ont essayé d'éliminer ces peuples-là, mais malgré tout, ils sont là. Ils sont, je dirais, presque plus que jamais présents, même à travers leurs pensées, parce que, bah, je pense, pour moi, enfin, il y a un message profond qui leur permet de traverser toutes ces épreuves et dont on a vraiment besoin aujourd'hui dans nos époques de transition, quoi. Alors, on en a besoin en y allant d'une façon respectueuse, parce qu'on ne va pas aller leur piquer leur façon de voir le monde. C'est ça aussi, parce qu'on a aussi comme cette tendance à idéaliser aujourd'hui un peu ces peuples-là. Rien n'est idéal. Par contre, il y a cette essence-là de comme, c'est quoi être des êtres humains ensemble d'une façon la plus harmonieuse possible. Et ça, bah, c'est là où moi je me situe un peu. C'est que j'aime bien aller voir ce qui peut nous inspirer, nous, dans nos façons d'être aujourd'hui. Et comment on ramène ça dans nos cultures. On ne va pas copier leur façon de faire. On ne va pas copier leurs rituels. On ne va pas copier... Enfin, on peut, mais... Il y a un moment où ça fait plus sens,
oui,
collectivement,
ça,
de
ça
le faire.
Oui, ça n'a plus vraiment de sens, c'est
voilà.
Ça, oui.
Par contre...
C'est une autre chose à nous qu'il faut développer.
Exactement. Bah, en fait, ce qu'ils ont gardé, ces fameuses lois-là, elles viennent de leur milieu. C'est-à-dire, pourquoi il y a un élément commun, c'est que tous, ils sont en lien avec leur territoire, qui sont chacun différents, mais leurs cultures se sont construites en lien avec le territoire. Nous, on avait ça aussi, en fait. Il y a juste un moment, ben voilà, il y a eu plein d'éléments qui sont venus, la religion, l'industrialisation...
La politique,
effectivement. Qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout cette vision de comment on est des êtres humains en lien avec notre territoire. Mais ce qu'on a à réinventer, c'est ça, c'est aller voir comment eux, enfin pour moi, ma vision, c'est comment eux vivent ces liens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous inspirer comme principe, et ça c'est le chemin que j'essaye de faire dans mes transmissions, qu'est-ce qu'ils peuvent nous inspirer comme principe pour remettre la Terre au cœur de nos fonctionnements. Parce que la Terre... j'aime bien dire, c'est que dans leur façon de fonctionner, quand ils sont dans un groupe humain autour de leur territoire, c'est la Terre qui les rassemble. Et nous, aujourd'hui, mondialement, c'est la Terre qui nous divise, en fait. On veut s'accaparer le jardin du voisin, quoi. Donc comment on recrée dans nos façons, à l'intérieur de nous et dans nos façons d'être ensemble, une Terre qui nous rassemble plutôt qu'un champ de bataille, quoi.
Makchi tambur kans pewaebi makchi tambur yang pigidi makchi tambur kans pewaebi mam pewa hokagil nong da honda di kai dai iwe me dai tankaya jamuni ewajitse kaya
territoire qui est quand même assez proche de la nature, Dans le Diwa, en fait, nous avons un bel environnement naturel autour de nous.
Ouais.
Je pense aux gens qui vivent dans des grandes villes, où il y a moins de nature qui est présente dans leur quotidien.
Mmh.
Ces gens-là ne sont pas plus bêtes que nous, pas plus intelligents. Enfin, mais comment est-ce qu'ils font, ces gens-là, pour s'inspirer du message de ces peuples racines ?
Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est intéressant de dire que c'est un voyage intérieur. Parce que c'est déjà là que ça se passe. Et quand je parlais de la joie tout à l'heure, la joie, la colère, tout ça, tu peux les avoir en ville. Et d'ailleurs, même souvent plus en ville, tu as de la colère.
Oui, c'est vrai.
Pour ma
oui.
part, c'est
vrai.
Le cas,
c'est vrai,
bon.
C'est vrai. Oui.
Donc, ce chemin-là, il n'y a pas de séparation dans la vision des peuples racines. Il n'y a pas de séparation entre ce qui se joue à l'intérieur de toi et ce qui se joue à l'extérieur de toi. Donc, déjà, il y a ce chemin-là que tu peux faire quand tu es en ville. Et puis, en fait, la nature, il faut savoir qu'elle est partout. Quand tu es en ville, tu lèves les yeux au ciel, il y a du ciel.
Oui.
Il y a les nuages, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du soleil. Et quand tu baisses les yeux au sol, tu peux avoir des petites herbes, des petites fleurs qui sont là. Il y a toujours un arbre quelque part. Moi, quand je vivais à Paris, je me souviens que j'avais ce lien-là. Pour moi, il était très présent avec les corneilles, les moineaux. Il y en a toujours partout, quoi. Et dès qu'il y avait j'avais un truc où à chaque fois qu'il y avait un oiseau qui passait dans mon champ de vision, paf, ça m'attirait. Et ça me ramenait toujours à cette idée. Que ça, c'est le monde plus grand dans lequel on est. Et donc, quand on est dans un monde uniquement humain, on rétrécit notre pensée à nos émotions, à nos problèmes de relations interhumaines, etc. Et dès qu'on se dit, tiens, il y a cet élément-là qui est plus grand que nous et qui nous contient, qui nous soutient, dont on fait partie, il y a autre chose qui commence à se mettre un petit peu en place. Alors, c'est vrai qu'ici, dans le Diwa, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le vivre profondément. Mais on peut juste se dire, c'est beau. On peut juste se dire, il y a un beau décor là autour de nous. Et c'est plus, enfin, dans la vision des peuples racines, ce qui nous amène, c'est que c'est beaucoup plus que ça. C'est pour eux, enfin, la terre est sacrée. C'est comme si on évoluait on vit dans une église, mais c'est bien plus que ça, en fait. Pour eux, voilà, il y a cette vision que marcher sur la terre, c'est sacré. Donc, il y a à la fois quelque chose de joyeux et à la fois une notion de responsabilité par rapport à ça, quoi. Donc, voilà. Donc, même si on vit dans un environnement magnifique, on peut très bien le traverser en disant juste « Oh, c'est beau !» Et ce qui est déjà bien de voir la beauté. Mais il y a, voilà, derrière la beauté, il y a encore peut-être des couches à aller chercher pour voir qu'est-ce que cette nature, elle vient nous révéler de ce qu'on est, de comment on est, etc. Et ça, c'est vraiment une idée commune qu'on trouve chez ces peuples. C'est que la nature, c'est le miroir de qui on est. Et donc, c'est dans une rencontre profonde qu'on peut aller chercher justement quelle est notre place dont je te parlais tout à l'heure au départ. Quoi. Notre place d'humain qui ne savons plus qui on est et qu'on a à retrouver.
Et est-ce que tu penses qu'on peut trouver des similitudes entre ce que pensent les peuples racines et les initiatives qu'on trouve sur notre territoire de changer notre vision de l'agriculture, d'avoir quelque chose de plus respectueux donc de l'environnement, de la permaculture, des GAEC qui se montent, des choses comme ça? Est-ce que tu penses que c'est un peu ça, quelque part, d'écouter l'enseignement de ces messages des peuples racines?
Oui, pour moi, il y a un lien direct, en fait. Hein. Et d'ailleurs, il y a même je pense au GAEC de Mont-Lahuc qui a été inspiré notamment par la culture des Kogi et par leur vision d'habiter un territoire d'une façon, on va dire, symbiotique.
On m'a dit qu'il y avait une délégation Kogi qui était venue dans le Diwa il y a quelques années de ça.
Oui.
Peut-être que tu étais au courant de ça. Peut-être que tu les as rencontrés également.
Oui, j'ai eu l'occasion de participer à quelques-uns des échanges à ce moment-là. Et c'est vrai que il y a une association de Chendoukwa qui fait venir des Kogi régulièrement et qui travaille avec eux pour les mettre en lien avec des scientifiques et essayer de voir les liens entre leur vision du territoire et la vision du territoire des scientifiques. Et donc, ils étaient venus dans ce cadre-là, effectivement, dans la vallée de la Drôme. Ils avaient fait un diagnostic d'un territoire. C'était vraiment intéressant de voir comment, simplement, alors ça reste un grand mystère, ils se posent à un endroit, ils observent et ils voient des choses que des scientifiques ont mis 10 ans à voir. Par exemple.
On m'a expliqué ça, ouais. On m'a expliqué ça.
Voilà, les pins noirs, ils ont tout de suite vu que c'était des pins qui venaient pas d'ici. Il y avait des questions sur, les circuits de l'eau. Enfin, il y avait vraiment plein d'éléments où les scientifiques qui étaient là après disaient, ouais. Et ça, c'est simplement en se connectant au territoire. Là, il y a une dimension que nous, on a complètement perdue, c'est-à-dire que, une forme de, je dirais, de présence au territoire, de ressenti. Bon, ils ont des années de formation, hein, ces gens-là, pendant des dizaines d'années de formation pour arriver, enfin, je pense à ceux qu'on appelle des mamos, qui sont des sortes de chamans. Quand ils arrivent ici sur un territoire, ils sentent des choses. Et nous, notre difficulté, en fait, et t'en parlais tout à l'heure quand t'évoquais la ville, c'est que on n'a plus de lien sensoriel au territoire. On a un lien visuel, on a tout développé par la vue dans nos sociétés. C'est vraiment le visuel qui compte, c'est ce qu'on voit qui compte. L'invisible ne compte pas, alors qu'on baigne dans l'invisible. Quand je suis en train de te parler, il se passe des trucs en toi, il se passe des trucs en moi. Et ça, c'est de l'invisible, tu vois. Toutes les émotions, toutes les pensées, enfin tout ça, c'est de l'invisible. Et eux, je dirais qu'ils ont une connaissance de ce dessous des choses, en fait, et donc de ces ressentis qu'ils peuvent avoir quand ils sont sur un territoire. Et nous, on n'a plus ça, on a coupé nos liens sensoriels. Donc, premier truc à faire, par exemple, quand on va en nature, quand je parlais tout à l'heure de « on peut très bien se balader dans un décor, dire c'est beau et ça suffit », c'est plus se dire « ok, mais qu'est-ce que… » Enfin, sensoriellement, aller toucher, aller sentir, aller ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se joue dans cette relation-là. Enfin, aller dans quelque chose qui est sensible, en fait, une relation sensible au territoire. Et eux, ils ont ça. Donc, tu posais la question par rapport à ce qui se fait dans le Diwa, dans plein de... Alors, évidemment, je dirais que le point commun, c'est la quête d'un respect du territoire, d'un respect de la terre. Le chemin qui est encore à parcourir, qui commence à se faire, c'est justement observer les castors pour voir comment ils font leur barrage, pour ensuite essayer de reproduire des techniques similaires pour que voilà, retenir l'eau et éviter qu'elle parte. Et voilà. Observer la nature, observer les arbres, qu'est-ce qu'ils amènent comme humidité, comment on fait pour retenir plus les nuages, etc. Il y a tout un travail et toute une réflexion qui est faite aujourd'hui. Et c'est génial parce qu'on a des outils scientifiques pour faire ça qui permettent de l'objectiver. Eux, ils le font au ressenti, donc ce qui est déjà c'est assez hallucinant d'ailleurs. Mais donc, il y a ces points communs-là. Et après, peut-être qu'il y a vraiment cette idée de dire, OK, comment je deviens un élément du territoire. C'est plus comment je... Nous, on vient se poser sur un territoire et on l'adapte à nous. Et là, l'idée, ce serait comment moi, je me laisse enseigner, transformer par le territoire. Si on devait faire le chemin pour rejoindre cette idée de peuple racine, moi, je dis qu'on est tous des indigènes, donc on a besoin de retrouver notre indigénicité. Comment on... Voilà, c'est quoi ce chemin? C'est quoi le pas suivant pour dire... Je redeviens un être perceptif en capacité de vivre avec son territoire de façon harmonieuse. Voilà. Mais c'est... Oui, toutes ces initiatives sont dans ce sens-là. Au-delà de la technicité, il y a encore un petit chemin intérieur à faire, pour moi, pour redevenir des indigènes, vraiment.
À mon avis, il y a pas mal de choses à faire, j'ai l'impression. Moi, ça m'évoque aussi cette question de la propriété. Mmh. On est dans un pays... comme tout dans l'hémisphère occidental, la notion de propriété est quand même assez, assez forte. Et dans ce que tu décris, j'ai l'impression que chez les peuples racines, ce n'est pas la même notion de propriété. J'ai l'impression que tout le monde appartient à la terre et inversement, quelque part, quoi.
Ouais, c'est effectivement ça, c'est un des éléments que je développe dans mon dernier bouquin, c'est cette idée de propriété. C'est depuis les Romains que ça s'est développé, que effectivement, la propriété de l'humain sur la terre, c'était ça qui allait faire la civilisation, en fait. Donc on est vraiment dans cette logique là que la terre nous appartient, que voilà, pour eux effectivement on appartient à la terre. Et c'est intéressant de voir que même les groupes qui vivent sur un territoire, donc un peuple d'Amérique du Nord qui va vivre sur un territoire, un autre qui va être son voisin, etc. Il va y avoir pas de frontières hyper fermes. C'est intéressant de voir qu'ils ont des façons de vivre les uns à côté des autres. Enfin bon, aujourd'hui, c'est un peu, ils sont pris par les lois qui sont les lois modernes. Donc il y a plus ces histoires. Mais globalement, quand même quand ils définissent leur territoire, il y a quelque chose de mouvant. Il y a quelque chose de mouvant qui va pouvoir bouger selon les populations d'animaux, selon le chemin que prend la rivière. Enfin, il y a quelque chose où vraiment, par exemple, la frontière en tant que telle, elle n'existe pas. Il y a pas là, c'est interdit. Mais il y a des arrangements entre les. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus subtil quelque part. Et puis. Il y a aussi, il y a une anthropologue qui avait étudié ça, je crois que c'est au Burkina Faso, l'idée que même quand un groupe humain va être sur une terre, qu'il va y avoir des organisations où c'est le chef qui va dire « Tiens, toi, t'as tel lopin de terre, toi, celui-là, etc. » C'est jamais une histoire de propriété. Il va y avoir en permanence des rituels de demande à la terre. En fait, il y a dans la conscience des gens, dans la façon de travailler la terre, il va y avoir en permanence un travail de ritualisation et d'offrandes voire de sacrifices pour la terre. Et ça, ça peut nous paraître bizarre. On va dire, oh là là, c'est quoi ces gens bizarres qui ont des croyances et tout. C'est simplement pour moi qu'à l'intérieur des humains qui vivent en lien avec cette terre-là, ça permet de se souvenir qu'on appartient à la terre. Ça permet en permanence de remettre en place cette idée que non, c'est pas moi qui possède ce lopin de terre, c'est elle qui va me donner quelque chose. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il parle de relations d'amour, hein, il parle de dons, de contre-dons, je donne quelque chose, on me rend, etc. Et ça, c'est la vision. Les écosystèmes ne sont que dons et contre-dons. On est un don pour la vie, et un jour, notre corps va être un don pour la Terre, enfin voilà. Oui. Donc il y a vraiment cette idée de cyclicité qui est présente dans leur pensée, et nous on a effectivement cette notion, c'est intéressant ce que tu dis sur la propriété, c'est comment est-ce qu'on pourrait réhabiter la Terre sans s'en sentir propriétaire, mais en se sentant responsable, parce que c'est ça en fait, eux ils se sentent gardiens et responsables de la terre sur laquelle ils sont. Et donc pour ça, eux ils ont tout un tas de rituels, de choses qui leur viennent des générations d'avant, mais on a peut-être nous des choses à réinventer pour se souvenir ensemble de comment on est responsable, gardien de cette terre, et qu'on lui appartient plus qu'elle ne nous appartient.
Je pense que toutes ces notions fondamentales que tu es en train de nous décrire, je pense qu'elles parlent à tout le monde absolument.
J'espère.
Est-ce qu'on fait pour arriver à s'en inspirer pour de vrai?
Ouais.
Est-ce que ces peuples racines vont être là à tout jamais pour pouvoir nous influencer, continuer à nous influencer? On sent que c'est compliqué d'un point de vue sociopolitique sur notre planète. Comment est-ce qu'on fait pour garder espoir?
Moi, je dirais que, en fait, c'est se souvenir qu'on est ça, nous aussi. Et ça, c'est. Les Navarro dit une belle phrase comme ça, une des passeuses avec lesquelles je travaille, c'est va leur dire qui on est, vous êtes ce que nous sommes, mais vous l'avez oublié. Et donc, il y a ça, il y a cette idée qu'on est ça, fondamentalement, en nous. Et que tout ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est le manque fondamental de ça, de ce lien, de cette indigénicité, de ce lien à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Alors, je parle de la Terre, mais à travers la Terre, quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, c'est ce miracle de la vie qui nous traverse, quoi, tout simplement. Si on revient à l'humilité de se dire waouh, c'est quoi ce truc que je suis et que tu es, on peut se relier à cet endroit-là, tu vois. Et ça n'a pas besoin d'être une religion, ça n'a pas besoin d'être un dieu, un truc, c'est juste un miracle, enfin un truc, voilà. Et donc pour moi, il y a cette idée de revenir à ce souvenir qu'on est ça. Ça rend humble, en fait, qu'on n'est que ça, qu'on est vulnérable aussi, tu vois. Et là, ça nous sort un peu des guerres de trucs, d'avoir envie d'être plus fort que le voisin, de sortir son arsenal, machin. Même si aujourd'hui, ça peut se discuter. On est dans un tel déséquilibre qu'il y a besoin de se protéger peut-être, mais tout en... Enfin, pour moi, il y a un double chemin quelque part à faire. C'est-à-dire, eux, ces peuples-là... quand on leur a tapé dessus, ils ont toujours trouvé des moyens de se protéger. Ils ne sont pas allés tendre l'autre joue et se faire écraser non plus. Ils ont préservé leur culture. Toujours, ils sont allés plus loin dans qui je suis, qu'est-ce que la culture de mes ancêtres m'a amené qui me permet de savoir qui je suis. Et à côté de ça, ils ont défendu leurs droits comme ils peuvent. Ils sont en difficulté partout. C'est intéressant de voir que ce soit les Maasai en Amérique du Nord, partout. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont se former dans les universités modernes pour pouvoir défendre leurs droits. Donc ils savent prendre les armes d'une façon pour venir parler à nos sociétés, voilà. Donc c'est toujours cette idée de se dire dans le système dans lequel on est, à la fois je vais de plus en plus, je veille à aller rechercher qui je suis profondément, et en même temps je dois jouer avec ce système dans lequel je suis, quoi, pour essayer d'y ramener un peu d'harmonie. Et pour moi, le chemin, il est là. Enfin, quand tu parles d'espoir, on projette toujours quelque chose. Quand on parle d'espoir, on attend quelque chose. Et pour moi, j'ai envie de pas attendre. J'ai envie de dire que l'espoir, il est à l'intérieur de moi et dans chaque pas que je fais chaque jour. Enfin, en tout cas, j'essaye de d'être à cet endroit-là, quoi.
En tant que passeuse également.
Ouais, en tant que passeuse également. Ouais.
Et tu as des liens avec d'autres passeuses et passeurs ?
Alors, moi, oui, puisque, en fait, quand je me suis intéressée à ces sujets-là, je suis d'abord allée avec des personnes, rencontrer des personnes qui sont en lien avec ces peuples-là, qui sont donc des passeurs et des passeuses. Moi, j'étais juste une journaliste, hein, à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est parce que j'ai vécu des choses avec eux, des expériences, que je me suis intéressée à ces sujets en profondeur, que j'ai vécu, ben oui, plein de choses, de connexion à la nature, de rituels divers, etc., qu'à un moment, je me suis reconnue, on va dire, un peu passeuse aussi, à une place différente d'eux. Mais donc, oui, je suis en lien, effectivement, avec des gens qui sont en lien avec des Navajos, des Maasai, des Kogi et autres.
C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu ne parles pas d'un peuple en particulier. Ouais. Tu parles d'un ensemble de peuples qui est connecté à la nature. Et du coup, il n'y a pas réellement de comparaison, il y a juste une compréhension, j'ai l'impression.
Bah, en fait, moi, vraiment, ce que je cherche, c'est à quel endroit ça vient me parler à moi profondément en tant qu'être humain. Dans mes manques de civilisés. Voilà. Donc, et je me rends compte que quand je fais ce chemin-là, bah, ça parle aux autres, en fait. Donc,
eh oui.
Donc, c'est là où ça doit passer à travers moi, sans doute, tu vois. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là, c'est humblement, parce que je fais ce que je peux, je ne suis pas érudite, je ne sais pas, voilà. Mais avec mes moyens et mes mots, d'essayer d'être à cet endroit-là pour le partager le mieux possible, en espérant que ça réveille des petits trucs chez ouais. l'autre, quoi.
Mais en tout cas, on est ravis de savoir que tu interviens dans le cadre d'écologie au quotidien, parce que ça a pleinement sa place, hein, dans ouais. ce festival. On rappelle, c'est l'intitulé, c'est « S'inspirer des peuples racines pour restaurer nos liens à la Terre ». Et si jamais, malheureusement, des gens ne peuvent pas venir,
ouais.
Comment est-ce qu'ils font pour avoir cette information ? Toi, tu as écrit des livres à
ouais.
ce sujet-là. Est-ce qu'on peut les trouver peut-être à la librairie Mosaïque ?
Oui, en général, ils sont souvent à Mosaïque, oui.
Ouais.
Ouais, ouais, alors donc, oui, effectivement. Alors, le tout dernier s'appelle « Et si la Terre nous parlait ?» Voilà, aux éditions Les Liens qui libèrent, et normalement, Mosaïque... Là, bien.
D'accord.
Et voilà, il y en a quatre au total. Voilà.
Il y a quatre livres
au
total.
Il y a quatre livres au total, oui.
Et peut-être, il y a un site internet où on peut se renseigner.
Oui, alors, j'ai un site internet à mon nom.
Oui, Frederica Van Ingel.
Frederica Van Ingel, ou le Cercle des Passeurs, c'est ce que je... Enfin, c'est à travers cette association que je transmets des choses aussi. Et on peut trouver à peu près toutes mes infos, les livres, etc., etc. sur ce... Et j'ai une newsletter sur ce, où on peut s'abonner sur ce site qui s'appelle tousindigènes, point d'exclamation. Voilà, où je transmets des infos et l'idée, c'est plutôt de réunir autour de cette idée, bah, c'est quoi cet indigène qui sommeille en nous et qu'on a besoin de réveiller.
Et lors de cette newsletter, tu parles peut-être de rendez-vous, de choses comme ça aussi à cette
ouais,
occasion-là,
ouais, toutes mes infos,
qui peuvent aider absolument. Donc les auditeurs à suivre. Parce qu'au début, quand on ne connaît pas trop, on est peut-être un peu perdu, on ne sait pas
ouais.
vrai, vers où se diriger. Oui,
tout à fait. Bah, en fait, normalement, il y a des portes sur ce site qui permettent... déjà, bon, il y a des infos sur ce que je fais.
Ouais.
Parfois, il y a d'autres infos sur ce que d'autres font aussi. Dans les différentes choses que j'organise aussi des rencontres en ligne avec des passeurs régulièrement. Tiens, merci de me le rappeler. J'organise des rencontres en ligne pour permettre justement d'être plus nombreux à pouvoir parler de ces sujets-là et de l'idée c'est que à travers leur expérience chacun va pouvoir ramener ça dans sa vie quoi en fait c'est d'essayer d'aller à partir de l'idée de la théorie pour essayer de concrètement ramener ça le plus possible dans sa vie ouais.
Quand tu parles de rencontres en ligne c'est-à-dire
ouais.
que moi si je m'inscris donc à ta newsletter je peux rencontrer d'autres passeurs en ligne
oui,
c'est ça
ouais,
que tu veux dire
ouais,
par là
tu inscris à ma newsletter puis tu auras les infos pour je fais 3-4 rencontres par an avec des gens qui sont en lien avec ces peuples-là et dont je trouve qu'ils font des choses vraiment intéressantes qui peuvent nous inspirer donc et tu peux tu t'inscris et tu peux participer ouais voilà
je vais faire ça
bienvenue
merci infiniment Frederica d'être venue parler au micro de RDIWA, nous parler de cet enseignement que les peuples racines ont à nous amener en fait, ou dont on peut s'inspirer.
Absolument. Merci Ismo.
Merci.
Hai ne ho we, hai ne ho we ya ne ho, no hai.
I never wait.